Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 16. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous, merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 16 dans le récit de l'évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. En fait, nous arrivons au tout dernier chapitre de l'évangile de Marc. Rappelons-le, le chapitre 15 s'est terminé sur une note très sombre. Jésus-Christ fut crucifié, puis enseveli. On pouvait penser que c'était la fin du récit, mais il y avait une suite révélée dans le chapitre 16. Et ce chapitre contient une nouvelle merveilleuse et extraordinaire. Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité. Nous avons lu une première partie du récit la dernière fois. À présent, Sandra nous lira la suite, les versets 9 à 14.
Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres. Mais ils ne les crurent pas, eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter.
Merci Sandra. La dernière fois, le récit s'est terminé avec la fuite des 3 femmes qui s'étaient rendues au tombeau et qui l'avaient découvert vide. Un ange leur avait alors demandé d'annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Mais celles-ci avaient si peur qu'elles n'osaient rien dire à personne. Cependant, aujourd'hui, nous apprenons que Marie de Magdala, l'une de ces 3 femmes, a vu le Christ ressuscité et qu'elle a ensuite annoncé sa découverte aux disciples. Ne trouve-t-on pas là une contradiction ?
Non, pas forcément. Nous pouvons facilement imaginer le scénario suivant. Ayant pris la fuite, Marie de Magdala a réussi à surmonter ses peurs et elle est revenue vers le tombeau vide. L'évangile de Jean confirme cette visite et ajoute qu'ensuite elle est allée chercher les disciples Pierre et Jean. Ces derniers constatèrent que le tombeau était effectivement vide avant de repartir. Cependant, Marie de Magdala resta sur place et c'est là que Jésus, ressuscité, vint vers elle. Suite à cette rencontre merveilleuse, Marie partit pour annoncer la résurrection aux disciples. Tous ces faits sont relatés en plus de détails dans l'évangile de Jean.
Merci pour ces éclaircissements.
En fait, le récit de la résurrection dans l'évangile de Marc est plus court que ceux trouvés dans les autres évangiles, notamment les évangiles de Luc et de Jean. Je peux dire que l'évangile de Marc fut le premier à être rédigé. Luc a écrit le sien quelques années après et Jean l'a écrit bien plus tard. Ces deux auteurs nous donnent beaucoup plus de détails sur les événements de ce jour. Par exemple, Marc nous dit simplement que Jésus ressuscité a rencontré 2 disciples sur une route et qu'il a fait chemin avec eux pendant un moment. Luc, quant à lui, nous le relate avec plus de détails et va jusqu'à nous révéler les sujets de leurs conversations et de leurs échanges. Il n'y a pas de contradiction. C'est simplement que Marc s'est contenté de nous donner quelques brefs détails de l'essentiel, alors que les autres évangélistes voulaient davantage approfondir les choses.
Ce que Marc semble souligner, c'est l'incrédulité des disciples devant des témoignages affirmant que Jésus est ressuscité.
C'est vrai, Yann. D'abord, Marie de Magdala vint leur annoncer qu'elle avait rencontré Jésus et qu'il était vivant. Ensuite, ces 2 disciples avec qui Jésus s'entretint sur la route, confirmèrent la nouvelle. Jésus est ressuscité. Et pourtant, les disciples n'y croient pas.
Que pouvons-nous apprendre du fait que Marc insiste sur l'incrédulité des disciples ?
Dans un premier temps, je voudrais employer le même raisonnement que celui utilisé la dernière fois quand j'ai parlé de la peur des femmes. Le fait que Marc insiste sur l'incrédulité des disciples vient confirmer l'authenticité et la véracité du récit. Comme je l'ai dit la dernière fois, certains de nos jours prétendent que les récits affirmant la résurrection de Jésus sont des histoires inventées de toutes pièces. Cependant, si tel était le cas, je pense que l'auteur ne décrirait pas les agissements des disciples sous un si mauvais jour. Un auteur romanesque aurait plutôt tendance à vouloir présenter les disciples comme des héros exemplaires. Le fait que Marc ne cache pas l'incrédulité des disciples reflète son honnêteté et l'authenticité des faits. Le texte de l'Évangile est digne de confiance. Nous pouvons être sûrs que Jésus est réellement ressuscité. Ensuite, si Marc décrit ses disciples dans toute leur faiblesse et avec tant d'humanité, c'est un rappel que ce sont des hommes et des femmes comme nous, et que Jésus vient nous rencontrer là où nous en sommes. Encore de nos jours, la plupart des gens accueillent la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ avec incrédulité.
Et cela se comprend quelque part. La résurrection de Jésus est un événement unique dans l'histoire. Elle est extraordinaire, inédite.
Et Jésus, le ressuscité, apparaît aux disciples incrédules dans la pièce où ils se cachaient à Jérusalem. Il leur reproche leur incrédulité, mais je vois dans cette rencontre une preuve de plus de la miséricorde de Jésus.
Matthieu, il est intéressant de noter que lorsque l'ange parle aux femmes devant le tombeau vide, il leur demande d'annoncer aux disciples que Jésus les attend en Galilée. Mais à présent, nous apprenons que Jésus les a rencontrés à Jérusalem. N'y a-t-il pas là une contradiction ?
Je ne le pense pas, et justement je pense que c'est lié à l'incrédulité des disciples et que c'est la preuve, comme je le dis, de la miséricorde de Jésus.
Expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît.
Il est évident que Jésus voulait rencontrer les disciples en Galilée et qu'il leur a donné rendez-vous. Toutefois, étant donné l'incrédulité des disciples, il est également évident que ces derniers n'avaient pas du tout l'intention d'y aller. Alors il est facile de supposer, vu cette tournure des choses, que Jésus a changé ses projets et qu'il a décidé plutôt d'aller voir les disciples à Jérusalem afin de dissiper leur incrédulité. Les évangiles de Matthieu et de Jean nous relatent que par la suite, les disciples ont revu Jésus au moins une fois, sinon plusieurs fois, en Galilée. Cependant, leur première rencontre avec Jésus ressuscité eut lieu à Jérusalem. J'insiste pour dire que ce geste de la part de Jésus, c'est-à-dire la rencontre à Jérusalem, est un geste rempli de grâce.
Pourquoi ?
Jésus aurait pu attendre les disciples en Galilée et ces derniers auraient manqué le rendez-vous. Ils se seraient privés du grand privilège et de la bénédiction d'être témoins de la résurrection de Jésus. Jésus aurait pu abandonner les disciples à leur incrédulité. Il aurait pu les laisser tomber, exaspérés par un exemple de plus de leur manque de foi. Mais non. Jésus décide d'aller les rencontrer là où ils étaient. Il décide de répondre à leur incrédulité par l'ultime preuve de sa résurrection. Sa présence visible, physique, preuve incontestable de sa résurrection. Jésus fait preuve de patience et de grâce envers ses disciples.
Merci. Matthieu, qu'en est-il de ceux et celles qui, aujourd'hui, restent incrédules devant la nouvelle de la résurrection de Jésus ?
Je peux dire que Jésus ne change pas. Il demeure patient et miséricordieux. En même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que Jésus apparaisse physiquement comme il l'a fait devant ses disciples, car il réside à présent dans les lieux célestes. Certains ont le privilège de voir le Christ ressuscité en vision ou en rêve, mais ces révélations sont plutôt rares. Non, Jésus a reproché à ses disciples de ne pas avoir cru au témoignage de ceux et celles qu'il avait vus ressusciter. Mes amis, nous avons à notre disposition aujourd'hui encore plus de témoignages fiables que les disciples n'en avaient. Alors Jésus veut que nous croyions ces témoignages. Nous trouvons ces témoignages tout au long du Nouveau Testament. Certains savants incrédules cherchent à démentir ces témoignages, mais leurs raisonnements ne tiennent pas debout, et certains d'entre eux, à force de se pencher sur ces récits, finissent par passer de l'incrédulité à la foi. Vous pouvez avoir des questions et des doutes au sujet de la résurrection, mais si vous faites des recherches sincères, Jésus viendra par son esprit vous rencontrer, même dans votre incrédulité. Patiemment et par son esprit, il répondra à vos interrogations, il enlèvera les obstacles. Et il vous persuadera de l'authenticité et de la véracité de ses récits. Il y a de très bonnes raisons de croire à la résurrection. Mais tôt ou tard, il faut une démarche de foi personnelle de la part de chacun.
Merci Matthieu. Écoutons donc la lecture de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9.
Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi.
Pierre, qui vécut l'incrédulité et qui fut par la suite témoin de la résurrection, ici dans sa lettre, admire et honore la foi de ceux et celles qui n'ont jamais eu un tel privilège. Son exemple peut nous réconforter et nous remettre en question. Parfois, nous honorons trop ceux qui prétendent avoir eu des expériences sensationnelles ou extraordinaires avec Jésus, que ce soit des visions ou des miracles. Du coup, ceux qui n'en ont pas vécu peuvent se sentir exclus ou désavantagés. Certains iront jusqu'à leur dire que s'ils n'ont pas vécu ces expériences, c'est que leur foi est faible ou insuffisante, ce qui renforce leur sentiment d'infériorité. Les propos de Pierre sont réconfortants. Pour lui, avoir la foi et persévérer dans l'épreuve, dans l'absence de preuves tangibles, miraculeuses ou visionnaires, est une bénédiction. Ce ne sont pas des chrétiens de deuxième classe, mais des frères et sœurs dignes d'honneur qui ont beaucoup à nous apprendre. J'oserais même dire que cette foi est plus solide, car elle s'appuie sur les promesses éternelles de Dieu et non pas sur des expériences éphémères.
Merci pour ces réflexions importantes. Chers amis, Matthieu sera de retour la prochaine fois pour continuer notre étude du chapitre 16 de l'Évangile de Marc. En attendant, nous vous disons à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.